nouveau volet de cette série spéciale à l'air libre, un avant-goût de l'émission littéraire qui débutera à la rentrée sur Grenouille, une série consacrée au lien entre littérature et cinéma, particulièrement le cinéma documentaire, puisque nous sommes au film Marseille. Quelles histoires, quelles articulations, quelles inspirations formelles ou émotionnelles ce couple cinéma-littérature représente-t-il pour nos invités ? Aujourd'hui, Jean-Christian Riff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, vous êtes présent au FID pour présenter votre film Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, qui porte le même titre que le livre éponyme de Georges Perec. Vous avez réalisé trois films auparavant. En tout cas, il y en a trois qui sont indiqués dans la filmographie du FID.
Oui, oui.
Vous semblez être hésitant sur la réalisation de ces films.
Oui, non, parce que c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où quelquefois, en tant que réalisateur, on remet des choses en question. Et j'ai l'impression qu'avec ce film-là, je pars dans une direction assez différente de ce que j'ai pu faire un peu avant. Même si j'ai toujours été très, très motivé, intéressé par tout ce qui a un rapport au temps, à la chronologie, à la notion de journal aussi. Pas le journal au sens intime, mais le journal au sens de répétition des jours. Et de répétition des choses, de tout ce qui se reproduit dans le temps. Et même quand j'ai abordé des sujets qui, a priori, ne rentraient pas dans cette sphère-là, la forme était souvent dans cette répétition.
Répétition de théâtre, par exemple.
Oui, effectivement. Oui,
vous avez filmé.
En plus, là, c'était sur un temps assez long. Et en plus, c'était Pascal Rambert donc, qui faisait des travaux avec des comédiens sur ce qu'il appelait le temps réel. Donc, c'est des comédiens qui partaient dans des séquences, comme il disait d'ailleurs, sans texte au préalable et dans un temps qui pouvait durer parfois plus d'une heure.
Je pense qu'on va revenir peut-être sur la fin de l'entretien. Sur ce sujet de la répétition et de journal, mais je voudrais qu'on s'attache d'abord à ce texte, Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, avant qu'il ne devienne effectivement un film réalisé par vous. Comment est-ce que vous avez découvert ce livre de Perec ?
Alors ça, c'est... évidemment, je connaissais beaucoup déjà Perec. Je l'avais déjà lu pas mal, et puis je ne sais pas pourquoi, c'est un jour, je suis tombé par hasard sur ce petit texte dont j'avais peut-être entendu parler du titre, mais que je n'avais pas lu. Et quand je tombe dessus, vraiment, c'est tout de suite, j'y vois un intérêt. D'autant plus que j'avais réalisé mon premier film qui s'appelait « Printemps ». Qui était un journal filmé de 8 jours dans un village ordinaire de Haute-Savoie et où je décrivais simplement les lieux sans une narration particulière, ni documentaire, ni fiction, et où je m'interrogeais sur comment filmer l'espace l'espace, ses occupants, le temps qui passe. Et je disais notamment... à un moment en voix off, je disais, nous filmons le carrefour du village à la même heure qu'hier. Essayez d'entendre et de voir ce qui a changé. Et quand je lis le texte de Perec, c'est une énumération aussi de voitures, de passages. Et à sa deuxième journée, il dit, par rapport à la veille, qu'y a-t-il de changé ? Et c'est là où j'ai eu la sensation d'un film possible à partir de ce texte. Parce que c'est une histoire par rapport au temps. Et dans ce film-là, par rapport à la veille, on peut penser à la veille hier.
Oui.
Donc hier dans le texte de Perec.
Oui, hier dans 3 jours de suite, effectivement.
Ouais, ouais. Hier dans les images que j'ai faites, moi aussi. Mais aussi hier, il y a 30 ans, puisqu'il y a ce décalage de 30 ans entre le texte et les images. Ouais. Quoi.
Alors effectivement, ce décalage, on va le voir, hein, on va continuer à parler de ce décalage, puisqu'il y a des moments où on sent bien le décalage du temps entre le texte et l'image. Et puis il y a aussi forcément ce décalage et cette conjonction en même temps, puisque s'il y a décalage, il y a aussi coïncidence où effectivement vous filmez, et là j'ai envie de vous poser la question du dispositif, comment vous êtes arrivé à ça, une succession d'événements, de petits événements qui sont pratiquement parallèles au texte, avec un dérapage de temps en temps et des différences. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à ce résultat? C'était un travail de montage très complexe, ou vous avez laissé un peu le hasard?
Alors déjà au tournage, hein, c'est de toute façon m'installer au même lieu où était installé Pérec, en sachant qu'il y a deux lieux qui
déjà,
ont changé.
Déjà, ça commence mal.
Oui,
il y a deux lieux qui ont changé.
Il y a juste un seul café qui est resté. Mais je pense que j'ai trouvé à peu près, même si les deux lieux ont changé, l'emplacement où il était, puisqu'on a quand même ces directions de regard dans le texte. Donc j'ai respecté ça et les vendredis, samedi, dimanche, parce que c'est présent dans le texte et parce qu'on sent bien des différences entre le samedi qui est très chargé en monde et le dimanche qui est vide. Voilà. Après, au montage, effectivement, c'est une autre paire de manches. Il s'agissait de continuer quand même à respecter cette idée-là, de ne pas aller mettre des plans du dimanche, un vendredi. Mais il est évident qu'il y a certains plans du vendredi qui ne sont pas forcément à la même heure. De toute façon, ça paraîtrait absurde de respecter le timing précis, puisque c'est impossible de Pérec.
Oui.
Mais l'idée était... Bon, déjà, il fallait... l'idée, au départ, était aussi d'être des plans plutôt fixes ou des panoramiques. Et moi, je sais qu'en commençant un plan, j'essayais à chaque fois à ce que... Donc je tourne, j'appuie sur le bouton de la caméra et je cherche quelque chose, mais pas chercher au sens où la caméra va dans tous les sens. J'attends et en même temps je regarde aussi. J'essayais toujours d'aller vers un plan séquence avec des événements qui se produisent et qui essayent d'aller à un moment aussi vers la fixité.
Est-ce que vous aviez le texte en tête en permanence? Est-ce que vous relisiez le texte après chaque prise ou chaque soir pour essayer de vous mettre dans une ambiance, pour essayer de repérer après ce qui...
C'est-à-dire que le texte, je le connaissais, ça m'est arrivé un peu de le regarder, mais de toute façon, je le connaissais assez bien. Donc, je savais ce qui se passait le vendredi, le samedi, le dimanche...
Alors, on sent qu'effectivement, il y a, vous vous êtes donné certaines contraintes, comme ces plans fixes, ces travelling se terminant sur des plans fixes, par exemple. Mais est-ce que la démarche créative de Pérec et Loulipo de travailler sous contrainte, je dirais, mais très forte, vous a aussi inspiré formellement?
Non, pas vraiment. Je dois dire que je ne suis pas quelqu'un forcément très attiré par les notions de contraintes qu'effectivement ont beaucoup développé les gens de Loulipo. Mais je trouve que chez Pérec, je ne sais pas ce qui se passe. Il a eu plein de contraintes. Il s'est donné plein de contraintes. Mais quand on le lit, d'abord, rarement, on sent ses grilles. Et qu'il y a une magie de la lecture qui se produit en oubliant ça. Et en plus, dans ce texte-là, ces contraintes sont toutes simples, c'est-à-dire c'est s'installer à un endroit et regarder. Donc, voilà. Moi, la contrainte que j'avais, par contre, au montage, c'était la lecture du texte. Le temps de lecture du texte. Voilà. donc dit en voix off. Et
ça fait une cinquantaine de pages, donc ça représente une heure à peu près.
Ouais. Et ça, c'est beaucoup pour un film. Ouais. Quoi. Ouais. Donc, c'est là où le plus difficile.
Alors, vous parliez de cette contrainte qui disparaît à la lecture chez Pérec. On peut dire que Pérec... moi, j'ai toujours trouvé que Pérec trichait aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il se donne des contraintes, mais il triche. Il dit quelque part que cette contrainte la plus fameuse, la disparition du E, dans un texte de, je sais pas, plus de 300 pages, il a respecté totalement, sauf une fois. Cela dit, personne n'a jamais trouvé vraiment où c'était. Donc on se demande où il triche en disant ça ou s'il l'a effectivement fait. Et dans ce texte-là que j'avais lu aussi, j'ai remarqué à la lecture, finalement, à l'audition, que Pérec trichait aussi. Il dit, je vais noter effectivement que des choses banales.
Ouais.
Et ce que j'ai sous les yeux. Mais à certains moments, il fait une énumération au bout de la deuxième ou troisième fois qui est plus rapide.
Oui, tout à fait.
Et où il passe effectivement sur certaines choses très rapidement. Oui. Mais il dit aussi, on voit passer des jeunes cons, des vieux cons.
Oui.
Par exemple, c'est une tricherie évidente, puisqu'on ne peut pas savoir juste en regardant les gens.
Oui. Et en plus, moi j'ai été très frappé par ça, parce que c'est un petit peu un résumé de ce qu'il a fait. De son regard d'avant, de son petit parcours avant. Et du coup, il n'est plus du tout dans le dispositif où il note en direct pendant tout le temps. Quoi. C'est vrai que c'est un des passages du texte qui est totalement différent par rapport aux autres.
Et c'est le changement, puisque vous parliez tout à l'heure de ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est ce qui change. C'est aussi le changement de posture, finalement, de l'écrivain. Et la question que j'ai envie de vous poser, enfin, depuis tout à l'heure, c'est est-ce que vous avez eu envie à un moment de soit de tricher, soit de changer le dispositif en cours de route, ou est-ce que ça vous a incité à le faire ?
Je pense qu'il y a deux plans, je pense, qui sont pas du tout dans l'axe de regard, l'axe du regard, et qui sont effectivement en décalage.
Ouais. On ne va pas dévoiler lesquels, puisqu'on va faire comme Pérec, on va chercher après si c'est vrai.
Bon, il a fallu aussi que je trouve, il y a ce que j'appelle le préambule, où Pérec annonce que il est place Saint-Sulpice et qu'elle a été beaucoup déjà décrite. Donc il y a un petit préambule avant sa description à lui.
Qui est encore d'autant plus juste à l'époque où vous tournez le film, puisqu'il y a encore eu entre-temps d'autres... d'autres témoignages et d'autres commentaires et d'autres écrits images sur cette place.
Ouais. Donc là, je me suis beaucoup interrogé sur quelles images mettre, puisque là, on est libre. Et j'ai choisi donc ce panoramique qui est presque de 360 degrés.
Ouais, à partir de la fontaine, pratiquement.
Voilà. Ouais.
Et vous parlez du préambule, mais il y a la fin où là, c'est très personnel, par contre.
Oui. Effectivement, là, c'est un décalage que j'avais envie, partir vers un ailleurs. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans les films, et je trouve que ce n'est pas facile à faire dans le documentaire. Et je dois dire aussi que ce qui n'était pas facile aussi, d'ailleurs, à un moment de dériver, dans ce film-là, c'est qu'il y a la contrainte de cette voix off, quand même, du texte. Et on s'est aperçu au montage que on était beaucoup sous elle. Enfin, on était presque obligé de la suivre jusqu'au bout, sinon c'est très difficile, on part sur autre chose. Et y a un moment d'ailleurs dans le film où la voix s'interrompt un peu plus longuement, et parce que il se passe quelque chose d'un peu plus
un petit accident.
D'un homme qui est censé être tombé de vélo. Et moi j'ai voulu, ça m'a intéressé parce que je trouvais qu'à ce moment-là, on peut avoir l'impression que la voix s'arrête parce que le narrateur entre guillemets comme les autres témoins de la rue, regardent.
Et on peut
Oui. Et on peut s'interroger aussi sur, à ce moment-là, quelle est cette voix.
Alors, effectivement, parce qu'au départ, on note la petite, le petit décalage de temps, puisque Pérec, le premier jour, je crois que c'est le premier jour, parle d'un petit accident de piéton qui se bouscule, qui se renverse un peu. Et dans, voilà, ça n'apparaît pas du tout à l'image. En revanche, on a effectivement un accident qui arrive devant la caméra. Donc on note d'abord ça. Et c'est seulement après qu'on note l'absence de voix. Et voilà. Alors, justement, peut-être que tout à l'heure, vous, on parlait de l'Oulipo et des contraintes. Mm-hmm. L'Oulipo, c'est quand même la définition de l'Oulipo, c'est ouvroir de littérature potentielle. Mm-hmm. Et c'est ce littérature potentielle qui m'intéresse. Est-ce qu'avec ce dispositif, vous avez l'impression qu'il y a un cinéma potentiel qui... que ça vous a donné l'occasion ou la permission d'explorer cette potentialité, malgré ou justement à cause du dispositif.
Vous voulez dire que éventuellement après développer des films qui seraient dans cette...
Est-ce que ça vous a ouvert quelque chose ? Comme j'ai l'impression que Pérec avec... ces contraintes formelles très fortes, est allé de plus en plus vers des choses très personnelles dans ses livres. Est-ce que vous, comme la fin le laisse supposer, vous avez, avec ce dispositif, découvert que ça vous ouvrait des portes, un potentiel de liberté, finalement ?
Je ne sais pas trop comment répondre à votre question. Je sais que... je sais qu'avec ce film, je reprends quelque chose que j'avais, en tous les cas, voilà, je sais que je reprends quelque chose que j'avais interrompu avec mon premier film qui était Printemps. Donc, et que pour diverses raisons, je m'en étais éloigné. C'est comme si j'avais, à un moment, arrêté cette recherche que, dès mon premier film, je voulais faire sur l'espace et le temps. Et j'ai la sensation effectivement que là c'est à la fois une reprise, un retour et un démarrage vers d'autres choses, mais je ne peux pas vous dire concrètement comment cinématographiquement. Il y a quelque chose aussi qui me vient, c'est que je suis peut-être comme beaucoup de cinéastes, j'ai parfois des envies d'adapter cinématographiquement des textes littéraire. Mais je suis quelqu'un qui, à chaque fois, se pose la question de que devient le texte à ce moment-là. Je suis extrêmement intéressé par ce qu'on pourrait appeler la matérialité du texte et qu'on la sente dans un film. Donc, je me bloque très souvent. Voilà, je lis un roman, etc. Et puis, je me dis, tiens, j'en ferais bien un film. Et je me dis, voilà, on va écrire un scénario. Sauf que voilà, je bute après sur cette question, que devient le texte ? Et il est évident que là, je ne butais pas parce qu'il était forcément présent. Et j'ai beaucoup... C'est vrai qu'il y a beaucoup comme ça de... Enfin, beaucoup, il y a un certain nombre de textes que j'ai déjà eu envie.
Par exemple, justement... Je voulais vous poser cette question après, donc ça tombe très bien. S'il y a des textes que vous avez déjà eu envie d'adapter, ou en tout cas vous avez pensé à le faire, desquels s'agirait-il ?
Je ne sais pas si c'est, intéressant de le dire comme ça, parce que je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Bon, moi je sais qu'il y avait La Presqu'île de Julien Gracq, et qui est un texte aussi qui pose problème puisque à faire au cinéma, puisque c'est il y a un seul personnage, il n'y a pas forcément une histoire, c'est quelqu'un qui attend que son ami arrive par un train. Il attend une journée puisqu'elle devait arriver le matin et finalement elle va arriver le soir. Voilà. Mais
c'est, encore une fois, c'est une question de temps, apparemment. Peut-être. Le temps qui se déroule.
Oui, ah oui. Oui, oui, tout à fait.
Une certaine lenteur,
ouais.
Immobilité
oui, de toute façon,
apparente.
Oui, oui. Ouais.
Est-ce que vous parliez de la matérialité du texte, est-ce que ce n'est pas aussi ça qui finalement pourrait vous intéresser, c'est cette nécessité du temps dans la littérature, à la fois pour construire une œuvre et pour la lire, où il y a forcément un rapport au temps qui se fait dans une certaine lenteur et immobilité. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui vous intéresse, ça ? Dans le rapport littérature et cinéma, pour aller un peu plus loin.
Oui, ah oui, de toute façon. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Je pense que oui, beaucoup de textes qui m'intéressent touchent au temps. Je ne crois pas que je puisse en parler comme ça, parce qu'il y a effectivement un texte très, très fort là, qui m'intéresse beaucoup, mais... j'ai pas encore contacté l'écrivain et je tourne encore autour. Voilà. Mais en tous les cas, effectivement, il y a, pour vous répondre, effectivement, il pourrait y avoir par la suite dans mon travail quelque chose comme ça qui se poursuive un peu. Et le texte auquel je pense, c'est aussi un texte d'aspect documentaire. Pourtant, c'est un écrivain qui a écrit beaucoup de romans. Et c'est un des rares qui est plus documentaire. Et qui se passe aussi dans Paris. Et qui est aussi une espèce de recherche d'événements ou de temps passés, du passé. Quoi.
C'est bien, vous avez envie de le garder pour vous pour l'instant, c'est
oui,
normal. C'est,
oui, parce que voilà, c'est un tout début. Et,
Alors, une dernière chose, peut-être il y a ce décalage, alors juste encore sur le film et après une dernière question sur peut-être les autres films que vous avez réalisés. On parlait du décalage tout à l'heure, effectivement, ce qui est intéressant dans le film et le texte, c'est... ce qui à un moment se rejoint ou pas. La chose intéressante aussi, c'est que finalement, les contraintes que s'était donné Pérec, il avait du mal à les respecter d'une certaine façon, puisque noter certaines choses, forcément, il devait choisir.
Bien sûr.
Ce qui était banal, mais ce qui était remarquablement banal, d'une oui. certaine façon.
Oui.
Suffisamment pour être remarqué, oui. en tout cas, par lui. Bon.
Et de toute façon, il fait aussi lui-même un montage en direct.
Il fait un montage.
À un moment, il choisit de regarder là-bas, il choisit d'énumérer les bus à un moment, alors qu'il pourrait aussi noter quelque chose d'autre à côté.
Son regard est attiré... ou en tout cas sa main écrit certaines choses et en nommait d'autres. L'image, au contraire, montre tout. En tout cas, tout ce que vous choisissez de montrer, mais au moins à l'intérieur de ce cadre, tout y est, et c'est l'œil du spectateur, porté par le texte, mais aussi, finalement, qui peut dériver, qui choisit ce qu'il a envie de regarder.
Tout à fait, oui.
J'imagine que ça vous a donné un sentiment très intéressant dans le décalage.
Oui, 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 parce que c'est marrant, parce que Pérec disait aussi que écrire c'était un jeu à deux entre l'écrivain et le lecteur. Et là, ça devient un jeu à trois parce que il y a le texte, il y a ce qu'a vu Pérec, il y a ce que j'ai vu, et il y a ce que peut voir le spectateur. Qui ne sera pas forcément mentionné ni par Pérec, ni que j'ai forcément vu, qui est peut-être au fond de l'image ou passe plus ou moins vite. Et puis il y a aussi des rapports qu'on n'aura pas vus. Effectivement, on a essayé de construire aussi des choses consciemment, mais il y a, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'analogies ou de rapports qu'on peut faire qui sont inconscients et qui surgissent. Je sais que j'en découvre encore.
Ouais. Ouais. Oui, c'est très riche pour ça. Alors, moi, je pensais juste à ce qui est en plus dans le film, et il me semble qu'on ne peut pas passer à côté, c'est la présence omniprésente, Omni, des téléphones portables, qui, on est sûr que Perec, de nos jours, aurait noté ça.
Oui, complètement.
Et là, ça n'est pas entendu dans le texte, c'est vu tout le temps.
Oui.
La caméra s'y attarde pas spécialement, mais c'est dans le champ en permanence.
Oui.
Et voilà, il y a ce genre de choses. Il y a une sorte de leitmotiv comme ça, téléphone portable dans le film, qui n'est pas du tout dans le livre. Mais...
Oui, il y a un plan
entre pareil. Autres,
oui.
C'est assez frappant.
Non, il y avait par exemple, je sais qu'il y avait un plan séquence dans le premier point de vue où on voit des analogies avec le texte, comme par exemple une de chevaux bleus ou la main d'une femme qui tient la main d'un enfant. Ça, c'est dans le texte aussi. Il y a plein d'analogies comme ça. Et puis on aurait pu couper à un moment le plan séquence parce qu'on avait ces analogies. Et il se trouve qu'à un moment surgit cet homme. De dos à la caméra avec son portable et il est évident que là il fallait qu'il apparaisse, ne pas couper avant quoi, il fallait le garder. Et il y a des plans, voilà ce que je voulais dire aussi, c'est que la difficulté aussi c'était de trouver des plans qui aient leur propre durée, leur propre valeur cinématographique mais qui résonnent avec le texte aussi. Qui ne soit pas simplement aussi dans l'illustration. C'était éviter l'illustration.
Ça marche bien, je peux vous dire.
Merci.
Voilà, la dernière question, c'était, puisque ce qu'on a dit à propos de vos premiers films m'alertait là-dessus, c'est, il me semble que, on a parlé du temps et de la répétition, mais il me semble que ce qui vous intéresse aussi, ce texte adapté semble aller dans ce sens, c'est filmer le processus de création.
Oui.
Je voulais juste vous entendre un petit peu là-dessus.
Oui. Puisque c'est aussi quelque chose qui se déroule dans du temps, d'ailleurs. Et que ça m'est arrivé une ou deux fois dans les films de travailler là-dessus. Ouais, sur ça. Donc c'est ce qui s'est passé avec notamment... ce travail de Pascal Rambert. Ce qui était très intéressant là, c'est que c'était de la création et c'était à chaque fois... C'est comme si... ce n'était pas forcément, en tous les cas, les exercices qu'il y avait là, ce n'était pas forcément en vue d'une pièce très précise. C'était presque élaborer un langage personnel de ce groupe de comédiens. Et d'arriver à trouver ce langage.
Voilà. On est dans la littérature aussi, finalement.
Oui, dans les mots, beaucoup. Oui.
Bien, merci Jean-Christian Riff.
Merci
d'être venu. Je vous signale, pour prolonger le sujet, qu'on peut se procurer un certain nombre de livres dans le hall du Théâtre de la Criée, où se déroule le FID, grâce à la librairie Histoire de l'œil, qui est présente. Les Perec en particulier. Demain, même heure, même fréquence, un nouvel invité, c'est Paul Lotchakowski-Laurence. On sera encore avec Perec pour une bonne part, je pense, puisque c'est un des grands éditeurs de Perec. Et voilà, et ça sera la fin de cette émission. Merci beaucoup, Jean-Christian Riff.
Merci.